Je prends tout de suite l'objection posée. Pouvez-vous expliquer pourquoi la troisième voie ne se prend pas du contingent et du nécessaire, mais bien du possible et du nécessaire? Le possible n'est-il pas ce qui peut être ou ne pas être, et le contingent ce qui est et qui peut ne pas être? Si oui, le contingent renfermerait déjà la nécessité de l'acte d'exister, et l'on a vu, et l'on ne pourrait plus, à partir du contingent, aboutir à un premier nécessaire. Je crois qu'il faut bien saisir, et nous revenons, si vous voulez, sur cet article de saint Thomas, bien comprendre pourquoi ce point de départ de la troisième voie de saint Thomas, c'est la réalité que je peux expérimenter. Donc le corruptif, la réalité qui se corrompt et les réalités qui naissent. Puisque comme je vous avais expliqué, le point de départ, c'est le point de vue du vivant. C'est le point de vue, non pas du vivant, c'est la seconde voie, mais c'est la réalité même, nous-mêmes. Nous voyons des réalités qui sont corrompues et des réalités qui naissent. À partir de là, on pose qu'il y a dans ces réalités le possible. Elles peuvent ne pas exister. Elles peuvent disparaître. Donc, pourquoi il faut maintenir le point de vue du possible et pas le point de vue du contingent? C'est que le contingent fait un blocage entre l'expérience. L'expérience n'est pas l'expérience de ce qui peut être et ne pas être. Vous n'expérimentez pas cela. Ce qu'on expérimente, c'est qu'une réalité est corruptible. Elle disparaît. Ce qu'on expérimente, c'est qu'une réalité ne dure pas toujours. Ce qu'on expérimente indirectement, c'est le point de vue de la mort. Je ne l'expérimente pas pour moi, puisque je ne pourrai plus en parler après, mais je l'expérimente chez mon voisin. Je l'expérimente auprès de ceux que j'aime. C'est en ce sens-là que l'expérience de la mort est médiatisée. Dès qu'on aime quelqu'un, on est plus indifférent à sa présence. Et s'il disparaît, s'il meurt, on est en présence de quelque chose qui nous touche profondément. Et on peut dire qu'à ce moment-là, nous pouvons comprendre que les réalités qui sont autour de nous peuvent disparaître. Et puis, on est en présence d'apparition d'êtres nouveaux, la naissance. La naissance est un être qui avant n'existait pas et maintenant existe. Donc on a l'expérience de réalités nouvelles et de réalités qui disparaissent. À partir de là, je pose, donc j'induis, il y a une certaine induction, je pose que ces réalités impliquent le point de vue du possible. Elles peuvent être et ne pas être. Et toute l'argumentation porte justement sur ce fait que toutes les réalités ne peuvent pas être des réalités possibles. Tandis que le contingent à l'inconvénient, et on comprend très bien comment cette perspective est née avec Occam, parce que justement il ne fait plus la distinction entre le point de vue de l'expérience et la saisie du principe, ou la saisie de ce mode possible et du point de vue du nécessaire, puisqu'il est dans une perspective logique et confond le point de vue logique et le point de vue métaphysique. Alors à partir de là, la preuve n'a plus de sens. Parce que vous n'avez pas l'expérience du contingent au sens absolu. C'est une conclusion, vous dites, une réalité contingente. Oui. Et ce que vous expérimentez, c'est une réalité qui existe. Et vous pouvez dire, elle existe de cette façon, c'est qu'en effet, cette réalité est capable de disparaître. Elle est capable de disparaître. Il y a déjà une réflexion. Vous voyez, alors ce qui est intéressant à remarquer, si je compare la troisième voie avec les deux autres voies, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que le point de départ de la troisième voie est beaucoup plus complexe que le point de départ des deux autres voies. Dans la première voie, le point de départ est direct. C'est pour ça que c'est la voie la plus manifeste. Je pars directement de ce qui est nu. Donc ça, c'est l'expérience quotidienne. Et je ne fais aucune réflexion là-dessus. Le second point de départ, c'est l'expérience du vivant, l'ordre des réalités, l'ordre des causes efficientes. Ça, je peux l'expérimenter aussi dans le vivant. Dès que j'expérimente le vivant, j'expérimente le vivant comme une réalité complexe et organique. Tout vivant est complexe et organique. Et donc, dans tout vivant, vous expérimentez qu'il y a un ordre des causes efficientes. La troisième expérience, le point de départ de la troisième voie est plus complexe, puisque ce n'est plus directement l'expérience, et on comprend très bien, puisqu'on veut toucher quelque chose de beaucoup plus absolu. Vous savez bien, les premiers disciples de Sartre se sont suicidés. Il ne faut pas l'oublier, mais pas Sartre. Mais les premiers disciples de Sartre se sont suicidés. Pourquoi ? Parce que c'était une philosophie qui voulait trouver l'absolu dans l'expérience. Or, le seul absolu qu'on peut trouver dans l'expérience, c'est la mort. Dans l'expérience, toujours, il y a quelque chose qui peut se reprendre. Une expérience n'est jamais un absolu, c'est quelque chose de relatif. On peut toujours reprendre une expérience. Tandis que la mort, je ne peux pas la reprendre. C'est une expérience, c'est dans le domaine sensible, et c'est l'absolu dans le sensible. C'est pour ça que c'est irritant. C'est pour ça que la mort conduit normalement à celui qui est sensible et qui réfléchit, à cette attitude de scandale. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Biologiquement, c'est normal, mais le biologique ne regarde que le point de vue de la vie végétative. L'homme regarde plus que la vie végétative, puisqu'il réfléchit sur la vie végétative. Donc, il est au-delà de la vie végétative quand il réfléchit. Et dès qu'il réfléchit, immédiatement, la mort, qui est un absolu dans le monde sensible, donne le scandale. Et apporte le scandale. On est scandalisé, normalement, devant la mort. On s'habitue. C'est la chose la plus terrible, c'est de s'habituer. Alors qu'on ne devrait pas s'habituer. Et la mort devrait scandaliser, et alors à partir de là, pose le problème, beaucoup plus profond. Quelle attitude dois-je avoir vis-à-vis de ce scandale ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Le scandale aboutit ou à la révolte, ou à un dépassement. Être scandalisé est une chose bonne pour l'intelligence. Une intelligence qui n'est jamais scandalisée, ça prouve que c'est une intelligence qui ne réfléchit plus. Alors qui est uniquement dans une espèce d'habitude qui fait qu'on ne s'en occupe plus. Les pneus sont usés, vous savez. Il n'y a aucune adhérence avec la réalité. Alors s'il n'y a aucune adhérence avec la réalité, on glisse. Et on suit la loi commune. Tandis que lorsque l'intelligence réfléchit profondément sur une réalité, l'intelligence peut être scandalisée. Quand elle trouve à partir du sensible quelque chose qui est comme un absolu, alors elle est scandalisée. Parce que normalement, le domaine de l'expérience est toujours quelque chose que je peux reprendre. Je peux toujours reprendre quelque chose qui est dans l'ordre sensible. Alors vous voyez, le point de départ de la tertia via a justement ce point de vue très particulier, c'est qu'on veut souligner le point de vue qu'une réalité qui est capable d'être corrompue, qui est corrompue, que je peux constater qu'elle peut naître et être corruptible, elle implique une possibilité. Alors, le possible vers le point de vue de l'être et vers le point de vue du non-être. Et alors, je vous avais souligné que cette bifurcation, le possible vers l'essai ou vers le non-essai, cette bifurcation du possible ne veut pas dire que il y a une ambiguïté dans le possible. Parce que si le possible était aussi bien vers l'essai que vers le non-essai, il y aurait une ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté vers le possible. Le possible est ordonné à l'être. Il est ordonné à l'essai. Mais il ne peut acquérir l'essai que par un autre. En tant que possible, il ne peut pas acquérir l'essai. Pourquoi ? Parce qu'il ne le possède pas par lui-même. Et que normalement, l'acte est quelque chose de plus que le point de vue du possible. Donc, celui qui est un être possible ne peut acquérir l'acte que par un autre. C'est à partir de là que le principe que donne saint Thomas est si important à souligner, mais il est donné d'une manière très complexe et qui n'est pas toujours commode pour nous à comprendre. Mais il est impossible que tout soit de telle nature. Voilà l'impossibilité. Il est impossible de considérer que toutes les réalités soient des réalités uniquement possibles. Parce que si toutes les réalités étaient uniquement possibles, puisque le possible ne passe à l'existence que par un autre, s'il passe par l'existence que par un autre, il faudrait pouvoir remonter à l'infini dans l'ordre de l'autre. Or, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre de l'autre. Donc, il faut nécessairement qu'on arrive à quelque chose qui est premier. Je crois que c'est ça la force de cet argument. Mais vous voyez bien que ça n'a de force convaincante que dans la mesure où on a compris la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance. Si je reste uniquement au niveau descriptif, donc au niveau de l'observation, sans impliquer une analyse philosophique, sans impliquer une analyse métaphysique, alors du côté descriptif, il n'y a pas de raison de ne pas remonter à l'infini. On peut toujours, puisque au point de vue descriptif, je n'analyse pas, je constate un fait. Or, je ne peux jamais constater l'infini. Je mourrai avant. Ça, c'est bien évident. Et tous. Donc, je ne peux jamais constater l'infini. Donc, je peux dire, ben oui, ça dure indéfiniment. Je ne sais pas. Après moi, le déluge. Hein, il y aura encore autre chose. Il y a encore autre... Donc, c'est infini. Je ne peux pas aller plus loin. Tandis qu'au plan métaphysique, c'est très différent. Puisque, analysant l'être en puissance et l'être en acte, je peux dire que tout ce qui est en puissance dépend de l'être en acte. Et si donc tout ce qui est en puissance dépend de l'être en acte, il y a quelque chose de relatif dans l'être en puissance, et parce que l'être en puissance est relatif vis-à-vis de l'être en acte, il est nécessairement second. S'il est second, ben il présuppose un premier. Et donc je ne peux pas dire que tout est second. Dire que tout est second, c'est supprimer le second. Puisque c'est supprimer la référence vers laquelle il est. Or, il est essentiellement tourné vers un autre. Et donc, prétendre que tout est possible, c'est contradictoire. Au plan métaphysique, hein, il faut comprendre ce que c'est que l'être possible. Et ça ne peut se comprendre qu'au niveau métaphysique. Vous ne pouvez pas décrire le possible. Vous décrivez toujours des réalités qui sont en acte. C'est la seule chose qu'on peut décrire. Hein. Ce sont des réalités qui sont en acte. Vous décrivez toujours des réalités complexes qui sont en acte. Mais vous ne pouvez pas décrire le possible. Le possible échappe à toute description. Et le possible est quelque chose qui est au-delà, qui va plus loin. C'est quelque chose que mon intelligence peut saisir à partir de l'acte. Mais je ne le saisis qu'à partir de l'acte. Et ayant saisi l'acte, je peux saisir cette dépendance radicale qui existe dans une réalité qui est mue. Et dans une réalité qui est mue non seulement d'un mouvement secondaire, comme on souligne dans la Prima Via, mais qui est mue substantiellement. C'est-à-dire une réalité qui disparaît. Je ne dis pas qu'elle disparaît d'une manière absolue, je ne dis pas qu'elle est annihilée, mais je dis qu'elle disparaît. Donc si elle disparaît, il y a une rupture substantielle en elle. Et s'il y a une rupture substantielle en elle, je peux dire qu'à partir de là, elle n'est plus pour l'observateur. Pour celui qui regarde. C'est vrai, quelqu'un qui meurt n'est plus pour celui qui observe de l'extérieur et qui décrit. Parce que celui qui meurt échappe justement à cette connaissance que je peux avoir, qui est une connaissance descriptive des réalités. Je dois donc, voyez bien, si je regarde attentivement la tertia via, comprendre que nous sommes là au niveau proprement de la métaphysique, de l'acte de la puissance. C'est peut-être même la tertia via qui est le plus net à ce point de vue-là. C'est la troisième voie de saint Thomas qui, je crois, est vraiment l'axe des cinq. Et qui, par le fait même, nous fait mieux comprendre que toutes les voies de saint Thomas sont toujours au niveau métaphysique. Je crois que la tertia via, si on la lit honnêtement, on voit tout de suite qu'on est au niveau métaphysique. On est à un niveau qui n'est pas le niveau descriptif. Vous voyez ? Tandis que le contingent ramènerait au niveau descriptif. Et donc ne préciserait plus le niveau descriptif et le niveau philosophique. Et c'est, je crois, ça capital. Autrement, alors, on ramène les voies à quelque chose de descriptif
Et si on ramène les voix à quelque chose de descriptif, ça ne prouve plus rien du tout. Vous ne pouvez pas, d'une manière descriptive, remonter jusqu'à Dieu. Dieu n'est pas dans la description. Ça rejoindrait, vous voyez, exactement ce que dit le prophète. Dieu n'est pas dans le tourbillon, Dieu n'est pas dans l'ouragan, Dieu n'est pas dans l'agitation. Si vous êtes dans l'agitation, Dieu n'y est pas. Et parce qu'il n'est pas dans la description. Dieu est dans le silence. Dieu est au-delà de tout cela. C'est cela qui veut être dit ici. Et c'est ça l'important. Je ne peux saisir Dieu que au-delà de la description. Alors, vous voyez, c'est là, on voit très bien que le positivisme, qui veut rester toujours au niveau de la description, et qui veut toujours rester au niveau de ce qui est mesurable, fait que je suis dans l'impossibilité de remonter jusqu'à Dieu. Je ne peux pas remonter jusqu'à Dieu si, de fait, je dis que la seule réalité qui existe, c'est celle réalité que je peux mesurer, que je peux décrire. Alors, à ce moment-là, vous bloquez le point de vue de ce qui est et du contingent. Et vous voyez la grande objection de Kant. Du conditionné, je ne peux pas remonter à l'inconditionné. Et vous voyez la grande objection de Heidegger. L'étant ne contient pas l'être. Alors je dois nier tous les conditionnés. Mais tout ça provient du contingent, vous voyez ? Qu'on dise le contingent, qu'on dise le conditionné, qu'on dise les temps, ça revient exactement au même. C'est la même perspective. Et c'est cette perspective qui consiste à bloquer le point de vue de l'aspect descriptif avec l'aspect de l'analyse. Et on supprime l'analyse pour rester uniquement en face du conditionnement d'une réalité. C'est pour ça que la tertia via est si importante pour nous. Il faut la méditer. Et il faut revenir souvent. Parce que c'est la tertia via qui montre le mieux, si vous voulez, cette espèce de verticalité que je crois vous voyez dans toutes les voies. Toutes les voies nous mettent en face de cette verticalité. Je découvre la présence d'un être absolu à travers des réalités que j'expérimente. Mais je ne peux le découvrir que si je m'élève assez haut. C'est l'expérience aujourd'hui qu'on peut avoir. Hein. Si vous êtes au bord de la mer, c'est d'une opacité extraordinaire. Tout le monde fait cette expérience et personne ne l'applique à l'intelligence. Si vous êtes au bord de la mer, c'est d'une opacité extraordinaire. C'est des couleurs différentes, c'est évident. C'est des couleurs plus ou moins suivant les profondeurs de l'eau. Les couleurs sont différentes, on le sait bien. Il faut vous élever pour pouvoir avoir un regard en profondeur. Et si vous vous élevez, vous avez un regard en profondeur. Eh bien, c'est exactement comme ça. Les réalités que vous voyez autour de vous, elles sont capables d'être corrompues. Elles sont nées. Je suis né. C'est comme ça que je suis marqué dans le temps. Et vous aussi. Et on est marqué dans le temps à cause de ça. On est mesuré par le lieu où l'on est né. On est mesuré par le temps où l'on est né. Bon, c'est sûr. Mais il y a en nous quelque chose qui échappe au temps. J'existe. C'est pourtant pas bien difficile à comprendre. Hein. Depuis le premier moment où je suis né, j'existe. Et même peut-être avant, puisque quand j'étais dans le sein maternel, j'existais déjà. Donc dès le premier moment de ma conception, j'existe. Ah mais je suis passé par des états très différents, n'est-ce pas ? Parce que sa maternelle, le berceau, et puis après, hein, alors vous voyez toutes les écoles maternelles successives, n'est-ce pas, jusqu'ici, n'est-ce pas, ça fait quand même des états. Mais c'est toujours, j'existe. Il y a quelque chose qui est tout le temps présent, au-delà de ces états différents, cette diversité qui implique une relativité. La perspective, vous voyez, qu'on voit des Occam, qui se continue vis-à-vis de Kant, qui se continue vis-à-vis de Heidegger, c'est de bloquer le point de vue de la réalité et de sa manière d'exister. Or, justement, le propre des voies, c'est de supprimer ce blocage et de voir que dans toute réalité qui existe, surtout en moi-même, si j'ai un regard suffisamment élevé, je pénètre dans cette réalité pour saisir sa fêlure métaphysique. C'est un examen métaphysique merveilleux. Les cinq fêlures de l'homme, qui sont les cinq points de départ par lesquels je peux découvrir la trace de Dieu. Ces cinq fêlures vues dans l'actualité de mon existence. Mais ce sont les cinq fêlures. Il faut essayer de comprendre les cinq voies progressivement par ces cinq fêlures. La première fêlure, bon, je suis un être ému. Bon, c'est très facile à comprendre la fêlure. Je suis capable de changement. La seconde fêlure, je suis un être vivant. Bon, il y a en moi tout un ordre de causalité. Et cet ordre de causalité implique nécessairement qu'il y a un premier, un dernier. Il y a une fêlure parce qu'il y a une limite dans cet ordre. La troisième fêlure, elle est la plus grave. Parce que je suis fêlé fondamentalement. N'est-ce pas ? Métaphysiquement fêlé. Alors ça, c'est pas drôle du tout, n'est-ce pas ? Métaphysiquement. Ce qui fait qu'il peut y avoir n'importe quelle autre manifestation. On est très impressionné par les manifestations des fêlures, mais on porte en nous une fêlure beaucoup plus radicale que toutes les manifestations. C'est le vertige vers le néant. C'est impressionnant de voir ça. Alors à ce moment-là, vous voyez, si j'ai un regard suffisamment élevé, je m'aperçois que cette réalité qui existe actuellement, qui est née, qui peut mourir, cette réalité implique en elle-même cette capacité de mourir, elle est en puissance. Je pousse jusqu'au bout cette fêlure, et je dis que cette fêlure, puisqu'elle existe, montre qu'il y a à la racine de cet être un être nécessaire, c'est-à-dire un être non fêlé. C'est la plus belle définition de Dieu. Enfin un être non fêlé. Tous les autres le sont, tandis qu'enfin un être qui n'a pas de fêlure. Je comprends que j'en ai une nostalgie. Parce que tous ceux que je vois autour de moi, ils m'apparaissent même plus fêlés que moi. C'est évident, parce qu'ils m'apparaissent plus fêlés. Ils sont terribles, communauté de fêlés. On est alors ce choc, ce choc. Et c'est vrai, ça ne peut pas être autrement. Si on n'accepte pas ça, ça prouve qu'on n'a pas de lucidité suffisamment vis-à-vis de nous-mêmes. On est tous des fêlés. Mais il faut découvrir qu'il y a en nous quelque chose d'autre, qu'il y a l'acte. Et par là, il y a justement celui qui actue profondément notre être. Et cet être, c'est l'être nécessaire. Ben c'est ça que je voudrais que vous compreniez. Hein. C'est ce regard suffisamment élevé et qui revient toujours à la métaphysique de l'acte de la puissance. Alors, si j'ai ce regard suffisamment élevé, je découvre en moi cela. Il y a de la colle qui tient très bien, c'est pour ça que d'habitude c'est tellement bien calé, tellement bien collé que je ne vois plus la fêlure. Et psychologiquement, je ne peux pas la voir, parce que je ne suis pas assez élevé psychologiquement. Je suis encore au bord du rivage. Alors je suis encore dans le conditionnement, alors je ne vois pas ça. Si je m'élève plus haut, ah oui, je m'aperçois que c'est collé. Alors dès que c'est collé, on se comprend très bien qu'en mettant de l'eau suffisamment bouillante, hein, ça se décollera. Ou avec tel ou tel procédé. Enfin, pour nous, le procédé, c'est le regard métaphysique de la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. Et à partir de cette distinction de l'être en acte et de l'être en puissance, je décolle les deux morceaux. Et je m'aperçois que je suis un être complexe. Un être complexe n'est jamais premier. Un être complexe, par tout ce qu'il est, il est relatif à un être non complexe. Vous voyez, j'aboutis à un être premier non complexe. La complexité la plus fondamentale en moi, c'est la complexité de l'essence et de l'existence. Vous voyez, c'est pour ça que la tertia via, c'est vraiment l'intuition de saint Thomas du DNT Saint-Dia. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors si vous avez suffisamment de temps et que ça vous intéresse, faites la comparaison de ce que saint Thomas dit dans le DNT Saint-Dia et ici dans la tertia via. Parce que vous verrez exactement la même intuition. La même intuition, c'est que nous avons un essai qui est reçu, un essai qui est limité. Bon, si cet essai est reçu et limité, forcément, il est collé au reste. Mais il n'est pas identique au reste. Je ne suis pas, par tout ce que je suis, l'essai. Mais j'existe. Mais je ne suis pas, par tout ce que je suis, l'essai. Il y a en moi quelque chose qui limite l'essai. C'est terrible, ça. Il y a quelque chose en moi qui limite l'essai. Et cette limitation de l'essai, c'est justement ce que je suis. C'est cette détermination très radicale qui est en moi. Alors, je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait aussi être attentif à ce point de vue que le temps intervient dans la tertia via. C'est très curieux, vous voyez. Parce qu'on pourrait dire, mais non, ça devrait être dans la prima via, le temps. La prima via, c'est le point de vue du mouvement. Ce serait tout à fait normal qu'avec le mouvement, on fasse intervenir le temps. Eh bien non. C'est au moment où un argal plus métaphysique, on fait intervenir le temps. C'est au moment où la voix implique quelque chose de radical par rapport à l'essai ou non-essai, qu'on fait intervenir le point de vue du temps. Alors, c'est quand même très étonnant, ça. Alors, on pourrait te dire, mais c'est pas la peine. Et c'est vrai, on pourrait simplifier la tertia via en disant, on ne va pas faire intervenir le temps. Il faut dire tout simplement, au point de vue métaphysique, dire, toutes les réalités ne peuvent pas être des réalités possibles. Attention. Nous maintenons le jugement d'existence. Et dans le jugement d'existence, justement, la réalité du fait même qu'elle est liée au temps. Et c'est pour ça que saint Thomas fait intervenir le point de vue du temps. C'est pour, comme petit signe, que le jugement d'existence est là. Si le jugement d'existence est là, le point de vue du temps est présent. Pour toute réalité que j'expérimente et que je dis exister, il y a un lien avec le temps. Le verbe est lié au temps. Et le verbe être est lié au temps. Quand je le saisis à travers les réalités que j'expérimente. Et alors, c'est pour mieux faire comprendre comment une réalité possible qui existe, une réalité capable de disparaître, corruptible, une réalité qui en même temps est capable d'exister. Cette réalité est liée au temps. Et donc, quandoque, il arrivera un moment, si toutes ces réalités sont comme ça, il arrivera un moment qu'elle tombera dans la corruption. Donc qu'elle se détruira elle-même. C'est très curieux ça. Et alors ça, c'est le poids, on pourrait dire, c'est le poids du possible vers le non-être. C'est très délicat, parce que c'est ici où il faut bien saisir. Le possible vers le point de vue blessé. Donc, un ordre essentiel vers le point de vue d'essai. Et puis, le possible vers le non-être. Le non-essai. Bien, je dis que cet ordre-là, il n'est pas un ordre nécessaire. Parce qu'il y a des possibles qui, de fait, ne retournent pas au néant. Nous sommes tous. Oui. Donc, on va dire qu'il y a pour nous un ordre actuel vers le non-essai. Pas dire ça. Et cependant, je peux dire que le possible qui est en moi, ce possible qui existe, il a en lui un certain poids, alors c'est très délicat, vers le non-essai. Pour montrer cela, je peux intervenir le temps. Je crois que c'est à cause de ça qu'on peut intervenir le temps. Quando quel non-essai. Il arrivera nécessairement qu'un possible laissé à lui-même, c'est-à-dire ne ressemblant plus à Valio, ne ressemblant d'un autre, laissé. Alors à ce moment-là, il tombera dans le néant. Alors, quando que? C'est la question du temps qui intervient. Et le temps intervient pour mettre en lumière, justement, qu'il y a toujours dans le possible quelque chose qui peut impliquer l'irruption du non-être. Vous voyez, c'est très subtil, ça. Hein? Ce qui est en acte, en tant qu'il est en acte, il est dans le présent. Et en tant qu'il est dans le présent, il échappe au temps. C'est ce qui est mu qui est mesuré par le temps. Mais ce n'est pas ce qui est. Il y a une relation vers le temps, mais c'est le présent. Ce qui est en tant qu'il est, il est relatif au présent. Mais ce qui est possible, en tant qu'il est possible, il y a en lui une relation vers le temps. Quando que non est. Et c'est par le point de vue du maître qu'il est relié au temps, c'est-à-dire au fait que il est toujours capable de disparaître. Et s'il est livré à lui-même, et donc si de fait il ne reçoit pas d'un autre le point de vue de l'essai, donc s'il est livré à lui-même, s'il est dans une économie d'immanence, si on enferme dans sa propre économie, dans son isolement de possible qui existe, eh bien ça ne durera pas. Il y a le non-être qui va l'emporter. Il disparaîtra. Très curieux, ça, c'est saisir. Hein? Et c'est pour ça que le point de vue du temps intervient pour mettre en lumière ce point de vue du non-essai, qui est toujours latent dans le possible. C'est pas un ordre essentiel, mais le possible peut toujours disparaître. Et le possible ne disparaît pas grâce à l'influence de l'autre. Mais s'il est coupé de l'autre, qui est toujours latent dans le possible. C'est pas un ordre essentiel, mais le possible peut toujours disparaître. Et le possible ne disparaît pas grâce à l'influence de l'autre. Mais s'il est coupé de l'autre et qu'il, uniquement qu'il a son avoir à l'égard de l'essai, il n'est plus dans une attitude de réceptivité. Il est dans une attitude de possession. Eh bien, s'il est dans cette attitude de possession et qu'il n'est plus dans cette attitude de réceptivité parce que l'autre n'agit plus sur lui et qu'il se coupe de l'autre, eh bien, quando que non est. Et ça le corrige de tout désir de possession. On va très loin, ça, au point de vue métaphysique. Hein. C'est qu'un être possible qui n'est plus dans l'attitude de réceptivité, eh bien, il se détruit. Spirituellement, oui, ça va très loin. Ça. Parce que l'attitude de possession, c'est l'orgueil. Une vérité que vous gardez orgueilleusement, quando que non est. Parce que c'est vrai dans tous les domaines. Hein. Alors nous sentons plus au point de vue de la vérité, au point de vue de l'amour. Au point de vue de l'amour, c'est la même chose. Un amour qui n'est plus relatif à l'autre. Un amour se nourrit par le bien, c'est le bien qui attire. Un amour qui n'est plus relié au bien qui est sa source. Un amour qui se replie sur lui-même. Quando que non est. Et ça, c'est vrai, on peut toucher du doigt. Oui. Il faut essayer de saisir ça, vous voyez, comme quelque chose qui est difficile, c'est subtil, hein, c'est très subtil. Mais c'est merveilleux à sentir ça, parce que c'est vrai dans tous les domaines. Parce que c'est une vérité métaphysique. Alors vous le trouvez du côté de l'intelligence, vous le trouvez du côté de l'amour. Et vous le trouvez du côté du vivant. Un vivant qui ne vit plus de son milieu, qui se replie sur lui-même, quando que non est. C'est-à-dire un vivant qui ne respire plus, quoi, tout simplement. Puisque le milieu d'amour, eh bien, il se voue à disparaître. Alors, c'est faut saisir ça, hein, pour que ce soit un petit peu le vertige métaphysique qui passe, hein, alors qu'il donne le frisson métaphysique. Et le frisson métaphysique, il ne faut pas aller trop loin, mais le frisson métaphysique nous rend intelligent et subtil. Parce que quand il n'y a plus le frisson métaphysique, vous vous endormez métaphysiquement et ça va si vite. Alors à ce moment-là, on dégringole comme un bolide, n'est-ce pas ? Et plus on est lourd, plus ça va vite. Alors c'est quelque chose qui est terrible. Alors qu'il faut au contraire comprendre quando que non est, et c'est le péril qui nous rend tout le temps réceptifs, vous voyez ? La crainte conduit à la sagesse. Et au fond, c'est la prise de conscience de cela qui nous empêche de nous enfermer sur nous. Et c'est important de saisir ça comme justement cette possibilité qu'il y a en nous de nous enfermer sur nous-mêmes. Je vous dis, c'est vrai métaphysiquement, c'est vrai au niveau de l'amour, c'est vrai au niveau de la vérité, c'est vrai au niveau du vivant. C'est vrai au niveau du monde. si le monde se pouvait, hein, il ne peut pas parce qu'il est physique, alors il n'est pas bête, mais si le monde pouvait se couper de sa dépendance, quando quidem est. C'est pour ça que quand vous regardez le monde uniquement lui-même, vous dites scientifiquement le monde doit disparaître. Oui, mais c'est un regard scientifique, ce n'est pas un regard de vérité. On ne peut pas métaphysiquement donner les limites du monde, parce que le monde n'est pas enfermé en lui-même. Vous voyez, c'est très joli comme raisonnement. Et ça, c'est très important à saisir. Vous savez bien, aujourd'hui, tous les savants disent, on peut maintenant scientifiquement prouver que le monde a eu un point de départ et un terme. Mais non, c'est scientifiquement, vous dites ça, c'est pas la réalité. Parce que vous ne saisissez pas la réalité profonde. Le monde est suspendu à la causalité première. Et c'est pour ça qu'il existe. Et s'il est suspendu à l'arrêté premier, l'arrêté premier peut faire que le monde dure autant de temps qu'il le voudra. Il n'y a pas de limite. Vous voyez cette fameuse thèse de saint Thomas, vous savez bien que l'intelligence humaine ne peut pas dire si le monde a commencé et quand le monde se terminera. Alors aujourd'hui on dit avec la science on peut. Ça, là c'est une erreur parce que je ne peux pas regarder du côté de l'existence. Le regard scientifique fait abstraction de l'existence, c'est-à-dire de l'acte, de l'être en acte. Alors je peux dire que du côté du conditionnement, il me semble bien qu'il y ait des limites, mais pas du côté de son être, parce que ça peut changer. Ça dépend directement de la cause première. Alors là, il y a un regard qui dépasse au point de vue scientifique. Alors, je vous renvoie, pour ceux qui s'intéressent à cette question de la tertia via, et surtout à cet argument de la tertia via, j'en ai fait un petit commentaire, du reste. Parce que le petit commentaire, c'était pour un congrès thomiste. Alors, voyez le Decello 1-12-283-24. C'est intéressant parce que vous retrouvez dans le Decello un argument très intéressant. Dans Aristote, vous savez que cet endroit du Decello est très intéressant dans Aristote. Parce que c'est là où Aristote fait une critique sévère du timé. Donc de ce que Platon voulait pour l'action du démiurge. Et où Aristote montre que ça ne signifie pas grand-chose. Le cas est suivant. Le commentaire de saint Thomas. Saint Thomas commente de cette manière. Évidemment, ce commentaire n'est pas traduit. Aristote conclut qu'il est impossible que quelque chose qui est corruptible ne soit pas, à un moment donné, corrompu. On pourrait en effet objecter au raisonnement précédent que tout ce qui est engendré est corruptible selon sa nature, mais qu'il peut arriver que ce qui est corruptible ne soit jamais corrompu en raison d'une certaine cause qui le conserve dans l'essai. C'est bien juste ce que je viens de vous dire. C'est l'objection, ça. Et c'est très vrai, mais c'est une objection qui touche quelque chose de très réel. Vous allez voir la manière dont saint Thomas va tourner le problème. C'est ainsi que Platon a soutenu que le monde est en lui-même engendré et corruptible, mais qu'il demeurera toujours de par la volonté de Dieu, bien que certains disent que Platon n'a pas conçu la corruptibilité du monde comme celle des réalités qui ont en elles-mêmes la cause nécessaire de leur corruption, mais qu'il a voulu par là signifier la dépendance de son essai à l'égard d'un autre, parce que la nécessité d'être ne lui vient pas de lui-même, mais de Dieu. Toutefois, quelle qu'ait été la conception de Platon, cela importe peu ici, puisque Aristote s'oppose à ce qu'il affirme. C'est pourquoi Aristote dit qu'il est manifestement impossible que ce qui est corruptible ne soit pas, à un moment donné, corrompu. Quando quae non est. C'est le quando quae non est. À un moment donné. C'est le même quando quae. C'est à un moment donné. Parce que s'il n'est pas, à un moment donné, corrompu, il peut ne pas être corrompu. Et ainsi, il sera incorruptible. C'est sûr. S'il ne peut pas être corrompu, il est donc incorruptible. Donc vous affirmez deux choses contradictoires en même temps. Et cependant, l'objection pose incorruptible existant pendant un temps qui durerait toujours, sempiterno. Donc, toujours, c'est-à-dire durant un temps infini, infinito, il sera à la fois en acte corruptible et incorruptible. Mais ce qui se corrompt n'existe pas toujours, tandis que ce qui est incorruptible existe toujours. Donc, la même réalité pourra à la fois être toujours et ne pas être toujours, ce qui est impossible. Parce que ce qui peut être toujours, nécessairement est toujours, et donc ne peut pas ne pas être toujours. Ainsi donc, il est manifeste, c'est manifeste pour vous, que tout corruptible sera à un moment donné corruptible. Vous voyez le raisonnement, saint Thomas, c'est très curieux ce raisonnement. Si vous prétendez que tout ce qui est corruptible peut ne jamais être corrompu, vous dites qu'il est incorruptible. Donc vous prétendez deux choses contradictoires en même temps. Si vous dites, ça va très loin, vous savez, comme jugement, c'est intéressant, c'est un passage qui est dur, comme c'est évident, c'est un raisonnement à la manière de saint Thomas. Mais c'est ça que saint Thomas veut montrer. Si vous prétendez que quelque chose est corruptible, ben nécessairement, à un moment donné, il n'est pas. Ah, vous voyez, c'est la question du temps qui vient là nous faire croire que. Mais si vous prétendez que, de fait, il ne se corrompra jamais, donc vous dites qu'il est incorruptible. Et donc, si vous dites qu'il est corruptible et qu'il est incorruptible, vous dites deux choses contradictoires. Donc, vous êtes obligé de reconnaître négativement, vous voyez, c'est une preuve négative qui est très intéressante, qui montre que vous êtes obligé de reconnaître qu'à un moment donné, il se corrompra. Et de même, si quelque chose est engendrable dans sa nature, nécessairement cela a été fait. Il ne faut pas entendre par là que toutes les réalités qui peuvent être engendrées, à un moment donné, soient engendrées. Car beaucoup de choses peuvent être faites qui ne seront jamais faites. Mais ce qui ne peut être, c'est que quelque chose de déjà existant soit dans sa nature engendrable et cependant n'ait pas été engendré, mais ait préexisté de toute éternité. En effet, ce qui est engendrable n'a pas naturellement la puissance d'être toujours, mais de pouvoir être après avoir, à un moment donné, a été fait. Donc vous voyez dans le commentaire de saint Thomas, Ludicello, premier livre, leçon 29, numéro 283. C'est intéressant à mettre au parallèle, hein? Ça explicite un tout petit peu la somme. C'est pour expliquer « quando qui non est ». Et pour expliquer qu'il y a un lien de nécessité à dire ça. Parce qu'autrement, vous êtes obligé de dire qu'il est incorruptible. Et si vous dites qu'il est incorruptible, vous allez le contraire. Donc c'est montrer que quand vous dites qu'une réalité est corruptible, cette réalité supponit, au point de vue logique, elle implique d'être ordonnée vers le non-être. Si elle implique d'être ordonnée vers le non-être, vous ne pouvez jamais supprimer cette relation. Vous ne pouvez jamais supprimer ça. Dès que vous supprimez l'ordre vers le non-être, en disant elle ne sera jamais corrompue, vous dites qu'elle est non pas possible, mais qu'elle est nécessaire. Le nécessaire, c'est celui qui est au-delà du non-être. Le possible, c'est celui qui est en contact avec le non-être. Et en tant que possible, il est toujours en contact avec le non-être. Vous ne pouvez pas supprimer ça. Et donc, aliquando non est. C'est assez subtil, mais c'est intéressant dans l'intervention du temps pour montrer que nécessairement, il y a un lien. Et pas supprimer ce lien. Ce lien est impossible. Si vous le supprimez, alors à ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'ordre du possible. Vous n'êtes plus dans l'ordre du corruptible. Vous n'êtes plus dans l'ordre de l'engendrable. Vous êtes dans l'ordre du nécessaire. Et alors ça montre mieux le lien entre le possible et le nécessaire.